On est dans Apocalypse, le chapitre 3. Et si vous êtes avec nous en visite, que vous venez d'arriver dans la région, que vous êtes de passage, bien, on est dans une série. Excusez-moi, je risque d'avoir une toux un petit peu fatigante, là, la fin d'un petit rhume. Puis vous savez, quand la période où c'est un peu sec à la fin, là, puis tu parles, puis on dirait que ça te fait tousser plus, là, je suis là. C'est juste que le problème, c'est que je parle beaucoup le dimanche matin. Alors, en espérant que ça ne soit pas trop achalant. Mais on est dans cette série à regarder les sept églises Apocalypse. Et vous savez, notre prière en faisant cette série, c'est vraiment pas de se placer en état de culpabilité, en état de pointer les autres, en état de juger l'Église. C'est vraiment, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis à moi? C'est quoi le diagnostic que toi tu fais, Seigneur, de mon cœur? Parce qu'à travers les sept églises d'Apocalypse, on retrouve une variété d'églises avec une variété de défis, très différents les unes les autres, des contextes d'églises aussi au niveau social différents, des églises qui vivaient plus de persécution. Puis on voit que les églises qui ont plus de persécution avaient une meilleure santé spirituelle, drôlement. Il semble que la persécution est bon pour mettre à l'épreuve notre foi et prouver s'il y a vraiment des fondements solides et si on s'accroche en l'Éternel. Et quand il y a une plus grande liberté, bien on remarque d'autres défis qu'on retrouve aussi dans l'Église d'Amérique du Nord, où on a une grande liberté et pourtant, à un moment donné, on commence à un moment donné à devenir confortable, à prendre pour acquis les choses. Et à travers ces sept églises, bien, le Seigneur fait un diagnostic de nos cœurs. Et le Seigneur désire de notre part d'avoir cette attitude de dire, Seigneur, les temps de la fin approchent. On ne sait pas quand est-ce que c'est, mais ça approche. On est toujours de plus en plus proche de jour en jour. Comment va mon cœur? Où sont mes luttes à moi personnellement? Quel est l'état de ma ferveur ou du manque de ferveur dans mon cœur, de mon amour, de mon attachement à Dieu? Est-ce que je suis en train de m'enliser à vivre finalement comme le monde, à me dire chrétien, mais c'est peut-être tout ce que j'ai. Je me dis chrétien, mais ça paraît peut-être pas. Tristement, c'est si facile pour l'Église de l'Amérique du Nord d'être là, d'être occupé avec tout le professionnalisme, le travail, la productivité, la performance, les apparences et aussi tout le divertissement que nos sociétés nous offrent. Toute l'attaque aussi de fausses doctrines qui s'attaquent à nos familles, il est si facile de devenir apathique et tranquillement perdre notre ferveur, de continuer à aller à l'Église, mais finalement d'aller à l'Église avec pas plus de foi profonde que peut-être notre ancienne religion avant. Combien ça serait triste d'avoir quitté une religion dans le passé que vous avez quittée. Quand vous avez réalisé quelque chose et finalement réalisé que peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, vous êtes redevenu religieux. C'est possible. Et ici, c'est juste dire, Seigneur, ce matin, est-ce que mon cœur est ouvert à ton diagnostic? Est-ce que mes oreilles sont à l'écoute de ce que l'Esprit voudrait me dire à moi, pas à mon voisin? Et d'être dans un état aussi de réceptivité à dire, Seigneur, quelle réponse que tu voudrais de ma part? C'est quoi la piste de solution que tu mets devant moi? C'est quoi le prochain pas dans ce chemin que tu m'invites à marcher de la vie chrétienne? C'est où tu veux que je place mon prochain pas lorsque j'ai ton diagnostic? Parce que, vous savez, vous avez tous déjà été chez le docteur. Il y en a qui évitent même le docteur pour éviter de savoir des problèmes. Tu sais, il est mieux juste se mettre la tête dans le sable. Il y en a qui vont chez le docteur puis ils disent des mensonges pour être sûr qu'ils ne trouvent pas leur problème. Fait que les docteurs, des fois, sont obligés de présumer qu'il y a beaucoup d'informations qu'ils n'ont pas de leurs patients, malheureusement. Dur de faire un bon travail dans ce temps-là. Et des fois, on pense qu'on peut faire ça avec Dieu, tu sais. Et quand le Seigneur nous donne un diagnostic, mais comme un bon docteur nous donne un diagnostic, il nous dit, mais là, maintenant, il faudrait que je te réfère à tel professionnel, à tel spécialiste pour ton problème. Mais là, t'appelles pas. Tu reportes. Il faudrait que tu ailles chercher tel médicament. Puis là, finalement, après le rendez-vous, tu vas pas à la pharmacie qui est juste à côté. T'as pas le goût. Ah, j'aime pas ça, les pilules. Ah, c'est pas le fun, les pilules. Puis tu sais, il y a des effets secondaires. Puis là, ça va me créer d'autres problèmes. Puis là, on se donne des excuses. Hein? Mais vous savez, notre Créateur, il est en même temps d'être un bon docteur, il est un papa. Il est mon fabricant. celui qui me fait de toutes pièces, qui me modèle. Et il veut que mon bien. Puis il voudrait juste que ce matin, mon cœur soit ouvert à entendre son diagnostic et qu'est-ce qu'il m'invite à faire comme réponse. Et c'est ce qu'on veut faire pendant le temps du repas du Seigneur, de méditer là-dessus, de préparer nos cœurs comme réponse à la fin de la prédication, en prenant le repas du Seigneur et en étant à l'écoute du Seigneur. C'est quoi le prochain pour que tu veux que je fasse? Et on est à la Laodicée, 7e église. Et si vous n'avez pas suivi la série, ben elle est disponible sur l'Internet, sur le site de l'église, où vous pouvez aller chercher et downloader les prédications à chaque semaine. Et on est donc au chapitre 3. Et je vais vous lire les versets 14 et suivants. Verset 14. À l'ange qui est à Laodicée, écrit. Ainsi parle l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Le principe ou le commencement de la création de Dieu. Je sais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Que n'es-tu froid ou bouillant? Mais parce que tu es tiède, et non froid ou bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Donc, c'est pas encore fait. Il dit, je m'apprête à le faire. Donc, il y a comme un délai ici, il y a une opportunité. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, je suis autonome, indépendant. Et que tu ne sais pas que tu es en réalité misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Ici, on n'est vraiment pas dans la pensée positive. On est dans le diagnostic. Il dit, écoute, tu vois pas clair? Ben, moi, je vois clair, là. Puis voici ce qu'il y en est. Tu te penses bien habillé, là. Mais t'es tout nu. T'es un tout nu. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? On va regarder, c'est quoi qu'est-ce qu'il veut dire quand il est nu, aveugle? Mais le Seigneur est comme bon papa et docteur qui diagnostique notre santé. Il dit, je te conseille d'acheter de moi. Oh, acheter de Dieu. Intéressant, là, on commence à... C'est une église, vous savez, c'était une région qui était très marchande, hein, très commerciale. Il y avait des marchés très lucratifs de marchands dans cette ville de Laodicée. L'église, hey, ils attirent leur attention, là. Venez, achetez de moi à place. Quoi? De l'or purifié au feu pour t'enrichir. OK. Des vêtements blancs, plutôt que les vêtements de laine noire spécialisés qu'ils avaient dans leur région. Des vêtements blancs pour te couvrir et que tu ne paraisses plus, pas la honte et ta nudité. Un collier, une sorte d'onguent pour oindre tes yeux et retrouver la vue. Moi, tous ceux que j'aime, je les reprends et les corrige. Ah, vous voyez pourquoi je parle d'un papa, d'un bon parent qui prend soin, qui doit faire cette tâche désagréable de reprendre, de corriger. Et après leur dit, il dit, ben, sois fervent ou aie du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai le repas ou le souper ou la scène avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai remporté la victoire et je suis allé siéger avec mon Père sur son trône. Encore ici, l'aspect paternel. Il dit, comme moi je vis dans une relation avec mon Père, quelque chose qui me donne son autorité, moi je vais faire la même chose, je vais la partager avec vous, vainqueurs, c'est-à-dire gens qui sont croyants, qui persévèrent dans leur foi. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et après avoir dit tout ça, les amis, il me semble que c'est ce verset-là le plus dur. Ce dernier verset-là. Entendre. que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il me semble que malgré tous les informations, les invitations, les avertissements, les réprimandes, il me semble que là est le plus grand défi. Pas juste avoir des oreilles physiques, mais d'avoir des oreilles spirituelles qui sont en train de dire, Seigneur, je veux entendre ta voix. Qu'est-ce que tu veux me dire? Seigneur, bénis la lecture de tes saintes écritures ce matin. Parle à nos cœurs, Seigneur, nos cœurs qui sont compliqués des fois. C'est compliqué le cœur humain. Mais Seigneur, on est réconforté ce matin. Celui qui nous parle, c'est notre Créateur. Celui qui a fabriqué notre être tout entier. Et qui est le mieux pour diagnostiquer et le mieux pour nous parler personnellement. Et comme tu le fais, Seigneur, à Laodicée et toutes ces églises, il y a près de 1900 ans, Seigneur, de cela, tu leur as parlé personnellement. Parle-nous, Seigneur, ce matin, personnellement. Parle à nos cœurs. Éclaire nos cœurs. Que nos yeux puissent voir la situation et ne pas tolérer de laisser notre état de cœur ainsi, mais de répondre à l'invitation que tu nous donnes ce matin. Que nos cœurs soient à l'écoute. Qu'ils soient à l'écoute et prêts à répondre. Dans le nom de ton Fils Jésus, je te prie, Seigneur. Amen. Bien, l'église de Laodicée, comme toutes les autres églises, toutes les autres villes, avaient leur propre histoire et vous avez ici quelques images de vestiges de cette ville. Peut-être une ville importante de l'époque, mais moins connue pour notre part et dont on connaît pas l'histoire par la suite de ce qui s'est passé. Mais cette petite ville était liée, petite ville, ben, une ville marchande, mais peut-être pas aussi grande qu'Éphèse, était liée avec deux autres villes. Ils faisaient un trio. Hierapolis, Laodicée, et l'église de Colosse. Alors, l'église aux Colossiens, vous vous rappelez de cette histoire, et il y avait Epaphras dans l'église qui était important dans l'église de Colosse. Ils étaient tous les trois liés ensemble. Il y a même eu un épître écrit à Laodicée dont on ne connaît pas la lettre, qui s'est perdue, que le Seigneur n'a pas vu bon de la protéger pour des raisons que nous ne connaissons pas. Et donc, on a fait ces églises-là et on arrive à cette fin, à cette église tiède. Et vous savez, la Bible nous dit qu'à la fin des temps, dans le chapitre 24, c'est le Seigneur Jésus dans Matthieu 24, je crois que c'est le verset 13, j'y vois à peu près par cœur, là, mais qui parle qu'à la fin des temps, il y aura un refroidissement. Et évidemment, un refroidissement, il y a beaucoup de similarités, il y a des liens avec cette perte d'amour, d'apathie, d'insensibilité. Mais une perte, particulièrement le mot utilisé dans le texte, c'est une perte de zèle, une perte d'ardeur, de feu brûlant pour Dieu. Avec toutes les attaques, avec toute l'attaque du monde, tout le divertissement, tout est là pour créer chez nous un confort, une perte d'ardeur. Et c'était le défi de cette église, où on retrouve encore ces vestiges, anciennement connue comme la ville de Zeus, Diospolis, la ville du Dieu, le Dieu, alors qui a changé finalement et c'est devenu le nom finalement d'une femme, d'un roi de l'époque, là, vers l'an 250 en Jésus-Christ, Antiochus, avait une épouse qui s'appelait Laodicée, et de là est venu son nom. Vous avez ici les vestiges de l'ancien théâtre, d'endroits où il y avait les bains thermales. Évidemment, la région, c'est une région assez instable. Il y avait des bains chauds dans certaines villes. Le Colosse était connu pour son eau froide. Et la ville ici était connue pour son aqueduc. L'eau était difficile. Il faisait venir de loin l'eau. Et à cause de ça, bien, tout ce réseau d'aqueducs faisait que l'eau arrivait dans la ville aussi était connue comme une eau qui était dégoûtante. Qui s'était réchauffée, qui devenait tiède. Alors, l'histoire de cette ville, je vous l'ai mentionné, Laodicée, le nom d'une femme d'Antiochus II qui a nommé cette ville finalement, qui l'a rebaptisée selon cette femme. Cette ville était tout près de Colosse et Hierapolis, comme l'a mentionné. Et on imagine qu'Épaphras a certainement eu une influence comme il l'a eu à Colosse et Hierapolis. Cet homme fidèle, un collègue de Paul, a certainement eu une influence à ce trio de villes proches les uns des autres. Tacite l'arrange parmi les villes d'Asie les plus célèbres et précise qu'elle a été détruite en 60 par un tremblement de terre. Donc, pas tant d'années que ça avant la lettre qu'on est en train de lire, une trentaine d'années probablement environ. Et qu'elle s'est relevée elle-même par ses propres moyens. Alors, il y a des discussions à savoir comment riche qu'elle était. Elle était tellement autonome qu'elle s'est reconstruite toute seule, mais finalement, on apprend aussi qu'elle avait des dettes. Il y a des nuances à sa richesse, il semble, lorsqu'on le regarde, les historiens de l'époque, ce qu'il y avait à dire à ce sujet-là. Il y a souvent des nuances à bien des choses. Et on a même des photos d'une ancienne église de l'époque des pères de l'église qui était dans cette ville et qu'on peut visiter encore aujourd'hui pour ceux qui font le voyage. Elle était connue aussi pour son école de médecine, d'où la mention d'un collyre. Il y avait évidemment des ophtalmologues même bien connus qui avaient étudié à cet endroit-là. Évidemment, c'était lié à un temple d'Escalépius. On a déjà parlé d'un temple comme ça de médecine. Mais il y avait une spécialité aussi au niveau d'un baume des yeux dans cette ville-là. Et il y avait une réputation à ce niveau-là. Je vous donnerai pas toutes les citations que j'ai, mais tout ça pour dire qu'il y a un élément ici important culturel. Puis, elle était aussi connue, évidemment, pour sa mauvaise qualité d'eau, qu'on aura l'occasion de reparler un peu plus tard, tantôt, plus loin dans notre étude. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est la manière dont le Seigneur va se présenter. Il se présente avec beaucoup d'autorité et avec une autorité qui vient déclarer le diagnostic que je fais sur votre cœur, le diagnostic que je fais de votre santé, là. Il est fait avec compétence. Celui qui le fait, c'est l'Amen. L'Amen, c'est le mot qu'on utilise pour parler de vérité. C'est une expression dans l'Ancien Testament qui était utilisée pour parler, ça vient de l'hébreu en réalité à l'origine, et c'était remis dans le Nouveau Testament ici, une translittération en quelque sorte, mais ça parle du Dieu de l'Ancien Testament. C'est lui qui était l'Amen. C'est lui qui était celui qu'on dit « ainsi soit-il », qui était la vérité, qui était l'autorité, qui était pour nous le mot à la fin de la prière. Et c'est une déclaration avec une grande autorité qui fait, en jumelant à cela, d'être témoin fidèle, d'être celui qui est digne de foi, digne de confiance, et d'être le véritable. Un mot qui est important, on en a parlé déjà la semaine dernière, en fait, lorsqu'on a parlé de l'Église de Philadelphie, celui qui est vérité, celui qui peut diagnostiquer, et Jean utilise ce mot-là très souvent dans ses écrits pour parler de Jésus comme étant le chemin là. Vérité et la vie. Il est le véritable, il est fiable, il sait de quoi il parle, et quand il fait un diagnostic, il est compétent. Donc, tous ces mots sont utilisés pour vraiment décrire la capacité de Dieu de pouvoir faire un diagnostic. Ça parle de sa fermeté, de sa crédibilité, des mots qui, évidemment, pour l'Église, étaient significatifs, et qu'on retrouve déjà dans le premier chapitre même. De plus, on dit qu'il est le principe, ou certaines traductions aussi, il est le commencement de la création. Et pour certains qui ont pris ça d'une manière isolée, ils l'ont associé au fait qu'il est le premier, le commencement. Donc, il est la première création de Dieu, le Fils de Dieu. Et donc, le plus important des créations de Dieu. Mais ici, c'est pas l'idée du mot ici, qu'il est le principe. C'est pas le commencement. C'est l'idée qu'il est le chef d'œuvre. Il est le début de tout. Il est l'origine de tout. Et c'est Paul qui va parler justement à Colosse en parlant de Jésus comme étant à l'origine de tout et la cause de tout même. Vous pouvez écrire à côté cette référence-là, justement, Colossiens chapitre 1, les versets 15 à 19, qui sont vraiment importants, où on retrouve aussi l'expression similaire. Il est l'origine, la base, la raison d'être de la création. Il est le chef, l'origine de tout cela. Et donc, ce qu'il est en train de faire comme déclaration, c'est que Jésus, qui est celui qui parle ici, il est Dieu. Il est créateur. Il est la raison d'être de vous et moi. Et donc, on lui doit tout, et son diagnostic est parfait. Votre docteur peut se tromper. Votre époux, votre épouse, votre employeur peut se tromper de diagnostic sur vous. Mais pas lui. Pas lui. Il se trompe jamais. Ah, des fois, le diagnostic est dur à prendre. Ça, c'est un autre problème. On a toujours de la misère avec les diagnostics. De se faire dire nos quatre vérités. Et il le fait ici. Mais c'est pas à défaut d'avoir de la compétence et d'avoir jugé durement. Ainsi, Jésus se présente à cette église comme celui qui connaît toute vérité. Celui qui est souverain, c'est-à-dire qui est au-dessus de toute la création. Une autorité puissante pour régler les problèmes sérieux de son église à lui. Et là, on arrive au problème principal. Et je vais vous relire ces versets. Regardez avec moi le verset 15 et 16. Je sais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Qu'en es-tu, froid ou bouillant? Mais parce que tu es tiède et non froid et bouillant, je vais te vomir de ma bouche. C'est pas rien de se faire dire une chose comme ça. Je vais te vomir de ma bouche. Personne n'a le goût d'entendre de telles paroles. Et pourtant, des paroles justes. Le contraste ici est entre l'eau chaude médicinale qu'il y avait à Hiérapolis et l'eau froide, l'eau pure de Colosse. Chacun avait leur réputation. Comme l'eau chaude coulait vers la Odyssée, par les tuyaux, elle s'est refroidie. Il était probablement que tiède à leur arrivée. Aussi, l'église de la Odyssée ne donnait pas de fraîcheur pour ceux qui étaient fatigués spirituellement, ni de guérison pour les malades spirituels. Elle était totalement inefficace et donc désagréable et dégoûtante même pour le Seigneur, qu'il est prêt à la vomir. Ça, c'est l'église qui finalement perd toute son efficacité parce qu'elle est tellement occupée à d'autres choses plus intéressantes. Elle a tellement perdu son zèle qu'elle a perdu sa ferveur, sa fierté, son feu sacré pour Dieu. Elle a perdu, oui, peut-être un peu son amour, comme on le décrit l'église d'Éphèse. Elle est rentrée dans un stade de religiosité. Elle suit la forme. Et pour l'ennemi, pour le royaume du mal, cette église n'est plus une menace. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, l'église tiède? On la laisse faire. C'est correct comme ça, on va pas trop la déranger. L'ennemi, il est bien content. Elle a plus d'efficacité. Elle est là, mais elle est qu'une bâtisse. Elle est qu'une apparence. Quelle tristesse de constater que l'Église puisse arriver à une telle situation. J'ai trouvé une citation ici intéressante par le pasteur Warner Wiersbe et j'ai cru bon de vous l'inscrire au complet sur cette page et je vous la lis. C'est pourquoi la serveuse continue à ajouter du café chaud ou du thé glacé froid dans nos tasses et dans nos verres lorsqu'on est dans un restaurant. Pourquoi? La deuxième loi de thermodynamique exige qu'un système fermé finisse par se stabiliser de manière à ne plus produire d'énergie. C'est scientifique. À moins que quelque chose ne soit ajouté de l'extérieur, le système se dégrade et meurt. Sans apport de combustible, l'eau chaude de la bouilloire se refroidit. Sans électricité, le réfrigérant du congélateur se réchauffe. L'Église ne peut être un système fermé. Jésus a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien. » L'Église de Laodicéenne était indépendante, satisfaite d'elle-même et sûre d'elle-même en plus. Nous n'avons besoin de rien. Mais pendant tout ce temps, leur puissance spirituelle est en train de se décomposer. Leur richesse matérielle et leurs statistiques brillantes n'étaient que des draperies cachant un cadavre en décomposition. Wow! Leur Seigneur était à l'extérieur de l'Église, essayant même d'y entrer. Intéressant, hein? Et je trouvais sa description tellement simple, concret, terre à terre, de ce phénomène spirituel. Qu'est-ce que cela implique concrètement d'être tiède? Comme Matthieu chapitre 24 et verset 12 le mentionne, selon la parole qu'il a fait adresser. Bien, c'est de manquer du zèle. Au verset 19, on le voit clairement rattaché au zèle, un ardeur pour Dieu. On dit que c'est un état spirituel malheureux, misérable, dans les versets qui suivent. Regardez bien le verset 17. Malheureux, misérable ou pitoyable, pauvre. Et là, ici, le mot, c'est une extrême pauvreté au point de mendier. Parce qu'il y avait différents mots pour l'intensité de pauvreté qu'on pouvait décrire quelqu'un. Ici, c'est spirituel. Alors qu'à Smyrne, c'était physique. Ils étaient très pauvres avec ce mot-là. Donc, très, très, très fragile, incapable de se défendre, d'acheter rien. Mais eux autres, ils disent, c'est pas physique comme Smyrne, vous autres. C'est spirituel. Le diagnostic physique de Smyrne est maintenant le diagnostic spirituel de pauvreté spirituelle de l'église de Laodicée. Aveugles face à leur péché, évidemment, et nus. Une nudité d'œuvre pour Dieu. Ils n'avaient rien comme œuvre de justice pour s'habiller, littéralement. Ce n'était pas anodin, cette allusion à son aveuglement dans une ville connue pour son école médicale spécialisée dans le domaine des yeux. C'est aussi significatif l'allusion métaphorique et ironique de son état de pauvreté, de nudité, symbolique, symbole spirituel, biblique, de jugement et d'humiliation, alors qu'ils étaient dans une ville riche, connue pour ses vêtements de valeur abondant, la mode. Simplement dit, ils ne marchaient pas à 100% avec leur Dieu. Ces gens étaient devenus mondains. Ils n'avaient pas une attitude intransigeante face aux vertus chrétiennes pour pouvoir mieux composer avec le monde idolâtre. Bien le contraire. Ils se pensaient riches et très bien spirituellement. Nous pouvons dire, en concluant, que dans la tiédeur, on peut perdre notre objectif pour bien évaluer notre situation. De plus, il semble qu'ils étaient, c'était le cas de toute l'Église, contrairement à certaines églises qu'on dit, tu as certains d'entre toi qui ont resté fidèles. Non, ici, il n'y a pas de nuance qui sont données pour parler d'un groupe de fidèles qu'il fallait exclure de ce jugement-là. Nuance que le Seigneur fait parfois. Non, c'était caractéristique de l'ensemble de l'Église. Ça fait penser à une histoire semblable qu'on peut retrouver dans l'Ancien Testament où Élie va exhorter. Et vous avez l'histoire ici dans 1 Roi, chapitre 18, une histoire bien connue où ce que Élie va mettre le défi, vous vous rappelez de cela? Le feu qui descend du ciel, les prophètes, puis celui qui est le vrai Dieu, bien, le feu va descendre du ciel. Et avec toute l'audace devant laquelle il fait, et il va prêcher à la foule, et il va leur demander, jusqu'à quand vous allez danser d'un bord puis de l'autre, de la clôture, et que vous prendrez pas une décision. Arrêtez de clocher d'un bord puis de l'autre et de rester dans l'indécision, parce que l'indécision, c'est une décision pour laquelle on est responsable de décider que je prends pas de décision. C'est un choix. Je prends pas position pour le Seigneur. Je reste confortable. Je veux pas mouiller. Je veux pas tomber dans l'ardeur. Mais en même temps, j'abandonne pas parce que là, je me sentirais mal. Et là, on reste sa clôture avec le monde en tension continuelle. Et c'est compliqué, ça. Rester debout sur une clôture, vous l'asseyerez. Généralement, qu'est-ce qui arrive avec le temps? Tu tombes. Tu peux faire un certain temps, mais maintenant, tu t'épuises parce que c'est long. Et c'est exigeant de rester en équilibre sur la clôture et assez de jauger entre la foi et le monde et de ne jamais prendre pleinement position. Et quand tu fais ça, le Seigneur, ça lui donne la nausée. Juste d'entendre ce son-là, on l'aime pas, hein? Mais c'est pas moi qui vous le dis, le texte le dit. Le Seigneur voit ça, puis il fait... Et il est juste sur le bord de vomir. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On essaie de calmer la personne qui est sur le bord de vomir et de répondre à ce qui amène ce problème-là. Et le Seigneur va donner, justement, une démarche. Mais c'est pas banal comme situation. Ils ont fait comme le riche, dans la parabole du riche insensé que Jésus utilise dans Luc 12. Qui s'est amassé des trésors pour lui-même, mais qui n'était pas riche pour Dieu. Ah, il était bien riche, il avait accumulé bien des affaires. Mais c'était pas la richesse des choses qui ont une valeur pour Dieu. C'était ça leur problème. Et il veut faire un effort marchand avec eux autres, puis leur donner l'opportunité de faire cela dans les versets suivants. Et je suis sur le point, littéralement, c'est comme ça que c'est écrit en origine, je suis sur le point de te vomir de ma bouche. Cela étant un langage imagé, évidemment, qu'il comprenait très bien contextuellement parce que tout le monde avait déjà pris de l'eau un petit peu trop tiède, dégueu, puis t'espérais te rafraîchir, puis finalement, de l'eau qui avait réchauffé au soleil. Pas chaude, puis pas verte. C'est pas juste température pièce, ça, là. On passe à une autre étape. Moi, j'aime bien la température pièce. C'est quand même rafraîchissant, la température pièce. C'est plus la même catégorie ici, là. C'est pas température pièce, ça, là. comme l'eau tiède et dégoûtante, ainsi en était-il de ces chrétiens. Christ n'a pas été tiède, vous savez, avec nous. Et c'est ça qu'il faut qu'on retienne. Lui n'a jamais été tiède pour notre salut. Il n'a pas été tiède devant notre indifférence et notre égarement comme pécheur. Il a été ardent pour nous. Mais il a été entier jusqu'à mourir pour nous. Ainsi, nous ne pouvons pas répondre en retour avec moins que ce que le Seigneur nous a donné comme exemple dans sa propre ferveur envers nous pour nous sauver et nous sortir de notre situation. C'est la réponse naturelle du cœur reconnaissant de répondre de cette même ferveur, bien qu'imparfaite. L'exhortation et avertissement de l'Église. Bien, vous allez remarquer une série de 3 exhortations où le Seigneur dit, je te conseille d'acheter de moi. OK? De chez moi. Vous achetez chez des gens, vous allez chez le marchand local, vous avez votre petite boutique pour le pain, vous avez votre petite boutique pour ci puis pour ça. Achetez chez moi. Vous avez l'habitude d'acheter ailleurs. Vos fournisseurs, achetez chez moi. Quoi, Seigneur, tu veux qu'on achète chez toi? Ben, des œuvres de justice. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? De l'or éprouvé par le feu. De l'or qui a été passé au feu, littéralement, afin que tu deviennes riche. Donc, ici, c'est une image, évidemment, dans plusieurs textes que je pourrais vous montrer. Vous pouvez retrouver ça dans mes notes en détail, mais on y aurait fait référence la semaine dernière d'être riche pour le Seigneur et des œuvres qui passent par le feu, des œuvres qui restent, des œuvres qui vont t'habiller. Et eux, il n'y avait pas de vêtements parce que leurs œuvres, finalement, étaient faites dans l'égoïsme, par l'apparence, pour la religiosité. Mais finalement, c'était pas des œuvres qui, lorsqu'ils passaient au feu, duraient, allaient être récompensées. Et finalement, tout ça faisait qu'ils restaient avec absolument rien. Ils disaient, viens acheter de moi de l'or. Viens m'acheter une richesse qui dure. Évidemment, c'est toutes des images ici liées au salut et à l'œuvre permanente et durable que le Seigneur veut faire dans nos vies. Des vêtements divins, c'est-à-dire des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse plus. Parce que là, évidemment, tu n'as rien de durable. Et si je vous donne des références pour ça, vous pouvez les prendre en note, que vous pouvez regarder. Mais 1 Corinthiens chapitre 3, versets 12 à 17, qu'on a mentionné la semaine dernière. Et ici, pour les vêtements, vous pouvez regarder au verset 4-5. Le chapitre 4, verset 5, aussi la semaine prochaine, on va le regarder. Verset 4, excusez-moi, du chapitre 4. Et je vous lis le chapitre 16, verset 15. Écoutez bien ceci. Chapitre 16, verset 15. Où il dit, « Heureux celui qui reste vigilant, qui garde ses vêtements afin de ne pas marcher nu, et de ne pas laisser voir sa honte. » Il parle du même discours, de porter un vêtement qui a été purifié par le pardon du Seigneur Jésus, des œuvres qui ont été lavées et qui fait que ton linge est blanc. Une image du pardon divin du Seigneur qui est utilisé à plusieurs endroits dans le livre. Et finalement, ce remède ophtalmique, ce remède divin, un collier pour oindre les yeux, devant ce problème de yeux, afin que tu vois. Ces gens-là pensaient voir, évidemment. Ils se pensaient riches. Ils se pensaient bien voir et tout clair, mais finalement, ce n'était pas le cas. Et cette petite poudre phrygienne, bien connue à l'époque, ce onguent-là, il dit, regarde, vous avez votre pharmacie chez vous, puis vos petits onguents, là, venez acheter le collier, le mélange qui va te permettre de vraiment voir. Parce que tes mélanges, présentement, là, ils font rien pour toi. Viens chercher mes gouttes ophtalmiques. Parce que là, le mot qui est là ici, ophtalmos pour les yeux, hein? C'est du grec, vous savez, les ophtalmologues, ça vient du grec. Pour les yeux, un spécialiste des yeux. Et il dit, viens chercher mon onguent pour les yeux que je t'offre. Et là, tu vas voir. Et Jésus, combien de fois dans les évangiles, et pensez à cette histoire dans Jean chapitre 9, où ce qu'il confronte les religieux après avoir montré un homme qu'il n'avait jamais vu, né aveugle. Jean chapitre 9, il le guérit et les gens ne le croient pas. Il y a des enquêtes qui sont faites. Ils vont 3-4 enquêtes. C'est évident, ils refusent de reconnaître. Et Jésus dit, moi j'ai guéri cet aveugle-là, mais vous autres, vous êtes encore aveugles, les religieux. Ah, ils sont insultés, mon ami. Je lui dis, c'est nous autres les aveugles. Effectivement, vous voyez pas clair. Lui, je l'ai guéri, il voit. Vous, vous pensez que vous voyez clair, mais vous, vous êtes les aveugles. C'est vous qui avez le problème de yeux. Et le Seigneur Jésus voudrait dire que c'est possible pour nous, comme chrétiens de l'Église, de devenir comme ça, de devenir apathique à ce point-là, de perdre le focus de notre appel, de perdre le chemin. Et toutes ces images ici, évidemment, sont des images du Seigneur qui fait une œuvre en nous, évidemment. Et on a des décisions à prendre. Et ça nous rappelle, cet Éphésiens chapitre 1, je vous lis la référence qui est là sur le dernier point, qui dit ceci. Qu'il illumine les yeux, les ophtalmolos. Qu'il illumine vos yeux de votre cœur. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Pour que vous voyez clair que ce que moi je vous offre, ça fait paraître tout ce que le monde vous offre comme pitoyable. Ce que moi je vous offre, ça reste. Ce que le monde vous offre va brûler, va détruire, va pourrir, va se perdre, va se faire voler. Moi, ce que je vous offre, c'est permanent. Ça reste. Vous allez jamais le regretter. Le monde vous offre des expériences. Mais après ça, vous allez vivre de la culpabilité, de l'exaspération, de l'indifférence. Moi, je vous offre une expérience de satisfaction que personne, et vous allez jamais dire, « Oh, j'aurais pas dû, finalement. » Non. Non. Lorsqu'il illumine les yeux du cœur pour voir clair ce qui nous est offert et que le monde voudrait nous aveugler de voir. Et ça fait penser, vous savez, dans Luc chapitre 24, lorsqu'ils marchaient, que Jésus est avec eux. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs ont dit ceci, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il est possible de marcher à côté de Jésus et pourtant de ne pas le reconnaître, et on a besoin de l'aide de Jésus pour voir clair. Et c'est ça qu'il faut retenir ici et prendre des décisions. Je disais cette histoire fort intéressante. Lors des Jeux olympiques de 84, plusieurs vont se rappeler les exploits de Carl Lewis. Et si vous n'étiez pas là à l'écouter, vous l'avez entendu parler. Remportant 4 médailles d'or. Malgré sa performance exceptionnelle, on l'accusa de ne pas avoir été au fond quand c'est venu le saut à longueur. Il y a quatre médailles. Tu gardes une petite gêne pour le critiquer? Ben non, on l'avait critiqué pour ça. Pourquoi? Au lieu de s'attaquer au record du monde, il arrêta la compétition après le premier saut. Il avait fait le premier saut, c'est correct, c'est assez. Sachant qu'il avait remporté l'or. J'ai bien aimé la réponse qu'il a faite aux critiques. Carl dit que les épreuves, olympiques, avaient été plus exigeantes de ce à quoi il s'était attendu. Et il avait, par conséquent, décidé de ménager ses forces. Il explique qu'il était là pour remporter les médailles d'or et non pour rétablir des records qui ne duraient probablement pas très longtemps. C'est pas brillant, ça, un peu? Au lieu de risquer de se blesser ou de se surmener à la poursuite d'un record mondial dans le saut en longueur, il ménagea ses énergies pour remporter la médaille d'or dans les autres disciplines, plutôt. Et son pari, il l'a gagné. Son choix, il l'a réussi. La décision de Carl me fait penser à quelque chose qui est souligné dans la parole de Dieu. La Bible nous dit que nous devons décider de ce que nous allons faire. Nous devons nous servir de notre temps et de nos énergies pour des choses qui ont une valeur durable, que nous n'aurons pas de regrets. Ce n'est pas ce que firent les chrétiens de l'église de Laodicée. Le Seigneur vit qu'ils avaient mal choisi leurs valeurs et qu'ils s'étaient enorgueillis de leur richesse extérieure et de leur capacité d'indépendance économique. Il leur dit donc qu'ils étaient devenus tièdes spirituellement et qu'ils ne dépendaient plus de leur Dieu. Ils étaient devant une décision à prendre. Continueraient-ils à chercher des choses temporelles? Ou essayerait-il de se procurer de l'or éternel, de l'approbation de Dieu? C'est le défi qui nous est lancé aujourd'hui. Notre tâche n'est pas d'avoir notre nom écrit dans le livre des records Guinness. Notre but, c'est de gagner l'or qui durera pour l'éternité. La vraie mesure de notre richesse, c'est ce que nous posséderons dans l'éternité, les amis. Pas maintenant. Mais là, on a un dilemme. Comment tu achètes de Dieu quand tu es un tout nu, tu es un pauvre, un pitoyable et un aveugle? Viens acheter. Je ne sais même pas comment me rendre au magasin, je suis aveugle. Puis je suis tout nu, c'est un peu gêné de me rendre jusqu'au magasin. Et toute la situation montre que spirituellement, on dit, ben ouais, mais tu demandes d'acheter, mais comment j'achète? J'ai rien à offrir. J'ai des biens matériels, mais spirituellement, comment que je paye pour ça? C'est une question importante, vous savez. Viens acheter, mais comment j'achète? Et vous savez, on retrouve la réponse dans l'Ancien Testament. Et je l'ai mis dans le PowerPoint. Je l'ai ajouté ce matin, brièvement. Je dis, ah, il faut que je l'inclue dans le PowerPoint. Celle-là, là, il me semble que c'est un incontournable que vous devez voir et noter. Isaïe 55 dit ceci. Vous tous qui avez soif, donc qu'on a un besoin, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Ah! OK! Quand le Seigneur nous invite à venir chercher, il ne nous demande pas de payer. Intéressant. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Ah! C'est comme ça que c'est possible. Pourquoi dépenseriez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Hein, vous le faites tous les jours, ça recommence tout le temps. Vous n'êtes pas satisfait, il faut refaire un dîner, puis après ça un souper, puis on recommence le lendemain matin, puis oh, peut-être dans un lunch. Puis c'est jamais assez, il faut toujours recommencer à manger. Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Pourquoi vous mettez tout votre effort sur ce que finalement, tu recommences tout le temps? Il y a peut-être quelque chose d'autre que je suis en train de manquer, puis c'est pas juste ma carrière, c'est pas juste ma stabilité financière, c'est pas juste mon statut dans la société, c'est pas juste ma capacité de me débrouiller puis de me démerder tout seul, parce que moi, je suis autonome, je suis capable, je compte pas sur personne. Non. Tu vas recommencer tout ça encore. Demain encore, tu vas essayer d'être indépendant. Tu vas recommencer à te nourrir, mais tu vas t'en nourrir le lendemain. Tu vas travailler demain, mais tu vas devoir retravailler. Ouais, mais Joël, il faut continuer à travailler. Oui! Mais ça te satisfera jamais. Ça te donnera pas quelque chose de durable comme tel. Écoutez-moi vraiment! Parce qu'on écoute, on écoute-tu vraiment? Écoutez vraiment! Et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourez des plats succulents. Contrairement à ce que le monde nous offre, puis qu'après, sur le coup, c'est succulent. Après, il y a des nausées. Il y a du regret. Il y a de la honte. Il y a de l'apitoiement. Il y a du suicide. Il y a de l'isolement. Et toutes les formes de choses qui amènent une tristesse, mais pas selon Dieu. Une tristesse que la Bible appelle, qui nous amène à la mort. Pas une tristesse qui nous amène à Dieu, au salut. Il faut aller à lui. Vous savez, le Seigneur Jésus, dans son ardeur, a permis de fabriquer un moyen qu'on puisse être sauvé sans payer. C'est pour ça qu'il invite à vivre cette expérience. Parce que Jésus est le pain de vie. Jésus est l'eau vive ici. Et d'avoir ce qu'il nous offre coûte rien. Ça coûte rien. Mais il faut encore reconnaître que j'en ai besoin, désespérément. Ça coûte rien, mais ça coûtait cher à produire. Mais il faut encore que j'en vois la valeur, puis je réalise que j'ai besoin de ce pain de vie-là qui me donne la vie éternelle. J'ai besoin de cette eau qui me lave de mes péchés et qui me donne l'Esprit Saint pour pouvoir marcher sur cette terre sans regret. Puis de connaître le chemin de Dieu. J'ai besoin de ça. Mais tant que je pense pas que je suis un pécheur, tant que je suis capable de m'arranger tout seul, j'en ai pas de valeur pour ça. J'ai pas d'intérêt d'acheter ce que le Seigneur m'offre. Parce que je pense ne pas en avoir besoin. Fait qu'il faut commencer par vraiment saisir la mauvaise nouvelle que t'es perdu, que je suis perdu, et que sans Dieu, je m'en vais en enfer. Puis c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Il dit qu'il est venu me sauver. Me sauver de quoi? Bien plus que mes problèmes sur terre. Et il parle, plus que n'importe quel auteur du Nouveau Testament, d'un lieu de damnation éloigné de Dieu, de jugement éternel. Et si Jésus n'avait pas parlé, les amis, j'oserais pas vous le mentionner ce matin. Mais Jésus en a parlé. Et, mais tant que tu vois pas que tu t'en vas là, t'as pas besoin de son remède. Tant que tu vois pas que t'es perdu, t'as pas besoin du bon docteur. Tu t'arranges toute seule. Et même l'Église qui a reçu ce remède peut à un moment donné se devenir tiède et réaliser qu'elle est redevenue un peu là, avec plus rien, et qu'elle doit retourner à son bon docteur. Et donc, qu'est-ce qu'il va lui dire? Mais c'est assez clair, expéditif, l'avertissement. Je te reprends, je te châtie. Il y a des conséquences. Puis, je te reprends. Il n'y a personne qui aime ça. Mais le Seigneur est clair dans Hébreux chapitre 12. Il dit aussi, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Arrête de te victimiser, de dire, pauvre de moi, il est dur sur moi. Non, non. Il te reprend parce qu'il t'aime. Parce que les gens qui n'aiment pas, ils ne reprennent pas, puis ils disent, oh, je m'en fous qu'il continue. Le père et la mère qui n'aiment pas son enfant, il ne reprend pas. Il apprendra plus vieux, pas grave, m'en fous, son problème. Ça, c'est de pas aimer. De reprendre, avec le risque qu'on ne soit pas bien reçu. La Bible nous dit que c'est ça, aimer. Puis que le Père fait ça envers nous. Puis il ose dire, écoute, je suis sur le bord de te vomir tellement que c'est pas agréable ma relation avec toi, là. Ben là, Seigneur, c'est pas très encourageant. Oui, mais c'est la vérité. Puis tu as besoin de l'entendre. Puis tu ne pourras pas changer, à moins que tu le reconnaisses. Et là, il y aura un début de quelque chose. Mais c'est quoi le début de ce quelque chose-là qu'il veut qu'on prenne? Mais il le dit. Il mentionne. Je châtie tous ceux que j'aime. C'est la preuve de mon amour. Fait que je te châtie, je te reprends, mais ça prouve que je t'aime. Et ensuite, il dit deux choses. Aie donc du zèle, retrouve ta ferveur. Oui, c'est pas facile, par exemple, de partir du pas chaud puis du tiède à retrouver le... Oui, mais ça passe par la repentance. Chacune des églises, pour chacun des problèmes, le Seigneur était clair. T'arriveras pas à juste repartir la manivelle comme les autos qu'on partait il y a presque 100 ans, qu'on partait en crinquant en avant, là, puis oh, on va repartir. Tu peux pas faire ça avec ta foi. Le Seigneur nous dit qu'il y a un changement lorsqu'il y a une prise de conscience et qu'il y a un sincère repentir. Et chacune des églises reçoit cette invitation devant chacun de ses problèmes. Repens-toi. Souviens-toi d'où tu viens. Reprends-toi d'où ce que tu es. Mais il faut que tu passes par la repentance. Un regret sincère. Je te demande pardon. Un changement de pensée pour dire, comment j'ai pu tolérer ces mensonges-là? Seigneur, je te les abandonne. C'est du mensonge. Je te demande pardon d'avoir cru à ça. Et je veux te les donner, ces mensonges-là. Et je veux recevoir la vérité de toi pour prendre la place dans ma pensée qui a été envahie de mensonges, des pensées négatives, des culpabilités, des attaques, des apitoiements. Toutes ces choses-là, Seigneur, je te demande pardon. Et je te demande de prendre la place et de me remplir ça des vérités. Et que tu transformes mon comportement parce que tu as transformé ma pensée. Ce qu'on appelle la conversion. Et il y a une conversion initiale, mais aussi une invitation périodiquement au moment où on s'égare de Dieu de se repentir, de reconnaître le tort, de le demander à Dieu et de changer de direction parce qu'il y a un changement de pensée radicale. Et ça, c'est divin. Sans repentance, il n'y a pas de changement. Sans repentance, on va essayer de craquer du zèle. Mais ça va être artificiel, ça va être religieux et insatisfaisant pour nous et pour Dieu. Et donc, l'invitation est forte ici à un changement. Et un changement dont le livre d'Apocalypse est celui qui va parler le plus proportionnellement. Et le changement est jumelé avec une invitation, une promesse. Une invitation particulière à l'Église de laisser la place d'entrée au Seigneur. Et remarquez bien pourquoi. Il dit, laisse-moi rentrer parce que je veux passer du temps avec toi. Je veux être en relation avec toi. C'est pas que je cherche un lunch gratos si je veux rentrer chez toi. Quand il est rentré, chez Zachée, chapitre 19 de Luc. Zachée n'a jamais été le même homme après avoir communié avec Jésus. La vraie présence de Jésus, lorsque je l'accueille et que j'accepte d'ouvrir la porte, mais il ne me force pas, la poignée est de mon côté. Et là, ici, c'est l'Église, hein, d'une manière collective qui est adressée, et on peut l'appliquer d'une manière personnelle aussi. Mais c'est l'Église qui, collectivement, ici, s'arrangeait tout seul. Puis c'est l'Église, c'est qui dit, je peux-tu rentrer pour la communion avec vous autres parce que vous faites la communion, mais je suis plus dedans. Vous êtes le corps de Christ. Mais Christ n'est plus le bienvenu. La porte est fermée. Puis Christ vous demande d'ouvrir la porte pour reprendre la place qui lui appartient dans nos cœurs. Et qu'est-ce qu'il veut? Lui, avec moi, avec lui, la communion. C'est ça qu'il veut. Il ne dit pas pour que vous fassiez les choses pour moi, pour que vous me serviez à la table, pour que vous me fassiez des bons mets. Non, il parle juste d'être avec nous. Et d'être avec lui nous change complètement. Et Zachée, ce voleur, ce profiteur, cet opportuniste, quand Jésus l'a rencontré, qu'est-ce qu'il a fait? Y a-tu quelqu'un qui a prêché, la loi a dit ça, puis non. Il dit, Seigneur, je m'engage, l'argent que j'ai pris, je vais donner 40%. La loi parlait de dédommagement de 20% dans l'Ancien Testament. Non, 40%, je vais le remettre. Puis je vais corriger mon erreur au double. Ça, c'est de la repentance. Personne n'y a demandé, personne n'a culpabilisé, personne n'y a... Non, c'est venu naturellement devant passer du temps avec Jésus. Ça a changé son attitude. Et il a pris un chemin sur lequel je crois qu'il n'est jamais revenu. Un chemin radical de repentance. Il a pris sa responsabilité. D'un côté, c'est moi qui vais te changer, mais il faut que tu me laisses rentrer. Il faut que mon invitation, tu y répondes. Et que tu vois ton besoin de moi. Et que même après m'avoir reçu à un moment donné, que tu as perdu ton désir et ton appréciation de passer du temps avec moi. Et que Jésus dit, je peux-tu ré-rentrer, s'il vous plaît? Revenir passer du temps avec toi? Parce que clairement, ta vie n'est pas satisfaisante. Puis tu as des meilleurs REER, là, présentement, qu'il y a 10 ans. Mais tes trains de repos au ciel. C'est super responsable. J'aime comment tu élèves tes enfants avec des principes de rigueur, puis tu favorises leurs études. Mais Jésus, il n'y a pas de place dans ton éducation. Puis ça paraît pas dans ta vie. Fait que comment tu veux que tes enfants aient le goût? C'est quoi la vraie chose que Dieu invite? Et là, au vainqueur, il encourage, et je vais te faire asseoir avec moi. Tu vas avoir tout ce qui m'appartient, tu vas y prendre part. Tu vas être parmi les vainqueurs avec le Père. Ce qu'il me donne, je vous le donne avec moi. Et on va en reparler parce que cette question-là de trône va revenir, mais cette promesse d'être avec lui. Et comme héritier, vous savez, même je dirais plutôt que cette promesse fait un point, c'est un pont naturel avec le prochain chapitre qu'on va regarder la semaine prochaine, le chapitre 4 au complet, vers la vision du chapitre 4 et 5, où nous voyons les anciens qui représentent les croyants faire exactement cela, être sur des trônes avec le Père céleste. Et avec le Fils. Comme héritiers du Seigneur, nous prendrons en partage avec lui son règne, son autorité royale, malgré que cela n'affecte en rien son autorité non plus. Quel privilège! Et c'est une promesse qui nous rappelle un peu celle qui a été donnée à Thyatire au chapitre 2. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous savez, et on va prendre le repas du Seigneur dans une minute, et j'ai invité le pasteur Benoît à s'approcher, qui va nous conduire dans le temps de repas du Seigneur. Il est placé à se préparer. On ne sait pas ce qu'ils ont répondu. L'histoire ne nous dit pas qu'est-ce qui s'est passé à Laodicée après. Et donc, on termine la lettre en se demandant, mais qu'est-ce qu'ils vont répondre? Qu'est-ce qu'ils ont fait devant cette invitation du Seigneur? Et le pasteur Wiersbe va nous dire ceci en résumé, comme mot de conclusion. Les lettres aux sept églises sont les rayons X de Dieu qui nous sont donnés pour que nous puissions examiner nos propres vies et ministères comme église. Le jugement va venir dans ce monde, mais il commence d'abord par la maison de Dieu, ses enfants. Dans ces lettres, nous trouvons aussi bien des encouragements que des réprimandes. Que le Seigneur nous aide à entendre ce que l'Esprit dit aujourd'hui à l'église de Trois-Rivières et aux individus de l'église de Trois-Rivières. Mais au-delà du fait de pouvoir dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait eux autres? Je pense que ce suspense de se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé pour eux, devrait être plutôt notre question pour nous. Qu'est-ce que nous, après avoir regardé ces églises, qu'est-ce que nous, on va faire? Qu'est-ce que moi, je vais faire? Et plus que ça encore, qu'est-ce que Seigneur, tu aimerais que je fasse? C'est où que tu peux que je pose mon prochain pas? Seigneur, tu peux-tu juste lever mon pied puis le déposer à l'endroit que tu le veux pour mon prochain pas? Je sais pas où est-ce que les autres vont se placer, mais si tu faisais juste lever mon pied puis le placer à la prochaine endroit pour que je ne fasse plus un pas en avant que je vais regretter, un pas de côté que je vais me culpabiliser, un pas en arrière puis rentrer dans un mur. J'en ai assez de choisir des pas que je regrette, des pas qu'on me remet d'en face. J'aimerais juste pouvoir faire un pas avec toi, Seigneur, le placer là où ce que toi tu voudrais que je le place, avec ta force.